La Bible nous raconte beaucoup d'histoires, d'histoires de beaucoup d'hommes, de femmes aussi, des hommes de foi, des hommes qui se sont confiés en Dieu, et notamment l'Ancien Testament recèle beaucoup de ces histoires en nous montrant les grandeurs et les faiblesses de ces personnes-là. Et quand je dis faiblesse, c'est que quand on lit ces histoires, il y a beaucoup de choses qui nous troublent. Et il y a un passage de la Bible qui nous cite en exemple quelqu'un qui a abandonné sa femme aux mains d'autres hommes pour sauver sa vie, quelqu'un qui a fait du favoritisme entre ses deux fils, quelqu'un qui a trompé son père, son frère, son oncle, un meurtrier, une prostituée, un trouillard, un pervers orgueilleux, un homme qui par bêtise a sacrifié sa fille, un kidnappeur de femmes, un meurtrier, un mauvais père. Et tous ces gens-là nous sont présentés comme des héros de la foi que nous devons imiter. Je pense que vous avez reconnu, pour certains d'entre vous, le chapitre dont je parle. Hein? Donc, ah, ça n'a pas l'air de marcher. Ça marche. Donc, c'est le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Nous en lirons une partie tout à l'heure. Alors, j'aimerais effectivement voir avec vous quelques-uns de ces hommes de foi. Et on va aller très vite parce que vous les connaissez. Je vous présente Noé. Enfin, c'est la version moderne de Noé. C'est un Danois qui a construit l'arche. Un Danois ou un Suédois, enfin quelqu'un de par là-haut. Alors, Noé, c'était un homme juste et intègre qui marchait avec Dieu. On trouve son histoire en Genèse chapitre 6. Voilà quelqu'un à qui on aimerait ressembler. Un homme qui détonnait parmi les gens de son époque. Oui, mais la suite. La suite, c'est qu'à peine l'humanité purifiée, à peine le péché extirpé de la terre, tout recommence. Et on trouve ça en Genèse 9, où le juste et intègre Noé devient un ivrogne, injuste, qui maudit son petit-fils pour une faute qu'il a commise lui. Abraham, l'homme de foi par excellence, celui qui est, d'après l'Épître aux Romains, le père de tous ceux qui croient. Voilà un exemple à suivre. Et pourtant, par deux fois, il s'est comporté comme un menteur et comme un lâche, en abandonnant sa femme entre les mains d'autres hommes, disant « Non, non, c'est ma sœur, vous pouvez y aller ». Parce qu'il avait peur pour sa vie. Un menteur, un lâche, voilà l'homme qui nous est donné en exemple. On continue ? Moïse. Un grand homme qui a fait des grandes choses pour Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Égypte, qui lui a donné la loi de Dieu, qui l'a conduit dans le désert. Pourtant, ça a commencé mal parce que c'est un meurtrier, Moïse. Exode chapitre 2. Et puis, ça finit mal, ou pas très bien, parce qu'il provoque la colère de Dieu au point que Dieu va lui dire « Tu as conduit le peuple à travers le désert jusqu'au pays promis, tu le verras ce pays, mais tu n'y entreras pas. » Est-ce qu'on aura un peu plus de succès avec les rois ? David ? C'est l'histoire de David et Goliath. David, le roi selon le cœur de Dieu, d'après le premier livre de Samuel au chapitre 13. le héros choisi par Dieu pour terrasser Goliath, l'auteur de tant de psaumes qui nous font du bien. Celui à qui Dieu a fait une promesse qu'il aurait un descendant qui serait l'héritier d'un trône éternel. Mais David, c'est celui qui a convoité Bathsheba, la femme d'Uriah, qui l'a fait enlever, kidnapper, qui a couché avec elle, pendant que Uriah se battait pour lui sur le front. Et pour conclure, il a même fait assassiner Uriah. Sans compter qu'il a un jour décidé un recensement que Dieu ne lui demandait pas et qui a déclenché une peste. On pourrait parler de son fils Salomon, l'homme dont la sagesse, à qui Dieu avait donné la sagesse, qui était célèbre pour cette sagesse et qui a fini dans l'idolâtrie, entouré de ses 300 femmes et de ses 700 concubines. Bon courage, hein, une femme, c'est déjà lourd. Ah oui, je t'avertis, hein, Pascal. Alors, on pourrait parler de Élie, le vaillant combattant pour l'Éternel qui finit dépressif. On va arrêter l'énumération, c'est un peu déprimant. Que constatons-nous ? Que tous ces hommes réputés grands, qui ont fait l'admiration du peuple juif, qui ont été approuvés par Dieu, ont tous, à un moment ou un autre de leur vie, présenté un défaut. Et pas un petit truc, pas une rayure sur la carrosserie, un défaut grave, une rébellion, un péché, un manque de fidélité. Mais pourquoi Dieu a-t-il protégé et choisi des hommes comme Jacob ? Pourquoi ne s'est-il pas détourné de lui ? Pourquoi la Bible les considère comme des grands hommes et nous les cite en exemple ? Et bien, quand j'étais jeune, moi, ça m'avait posé des problèmes. Vraiment, je m'étais dit, ben non, mais comment c'est possible, ça ? Alors, je vous suggère quelques réponses à ces questions. La première réponse, c'est que la Bible veut souligner qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 9. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et il insiste en disant qu'aucun homme n'est juste, même parmi les grands hommes que lui, Paul, respectait, les gens dont nous avons parlé tout à l'heure, des gens comme David, des gens comme Salomon, des gens comme Élie. Et voilà une première réponse à notre interrogation. C'est que la Bible nous montre que Dieu a aimé des pécheurs et qu'il aime des pécheurs. Et ça doit nous rassurer. Parce que finalement, Dieu ne s'intéresse pas qu'aux grands hommes parfaits, sans défaut, sans lisse, mais qu'il aime des gens qui ont des défauts, qui ont des fautes, des imperfections. Donc il m'aime, il peut m'aimer, et ça me rassure. Cela nous conduit aussi à regarder au seul juste que la Bible nous montre. Jésus-Christ est le juste. C'est ce que nous donnent des textes, nous disent des textes comme Jacques 5, verset 6, ou la première épître de Jean, chapitre 2, qui nous parle de Jésus-Christ, le juste. Voilà ma première réponse. Il n'y a pas de juste, il n'y a que des pécheurs, excepté Jésus-Christ, et Dieu aime les gens comme cela. Et Dieu donc même. Deuxième réponse. Ces hommes ont été justifiés s'ils n'étaient pas justes. Et ils ont été justifiés par la grâce de Dieu. Je relis ce que j'avais commencé tout à l'heure, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que dit ce texte. Nous ne sommes pas justes, mais Dieu nous fait grâce. Et il nous fait grâce par la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, par le moyen de la rédemption, du rachat qui est en Jésus. La troisième réponse à cette question, ils ont été justifiés non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, parce qu'à un moment de leur vie, il a fallu qu'ils fassent confiance dans ce Dieu-là, et ils l'ont fait. Toujours l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père ? Qu'a-t-il obtenu ? Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non pas comme une grâce, mais comme une chose due. Mais celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Ce texte donc nous parle d'Abraham, Paul nous parle d'Abraham, non pas comme un homme extraordinaire, mais comme quelqu'un qui a fait confiance à Dieu. C'est le moyen d'action de la foi. La grâce de Dieu s'exerce sur ceux qui lui font confiance. Et pour nous, c'est la même chose. Ils ont été justifiés parce qu'ils ont cru. Moi, pécheur, je suis justifié parce que je crois. Je crois en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, dit le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Voilà déjà trois raisons, trois explications. Pourquoi la Bible, finalement, est si franche en nous montrant pas que les bons côtés des gens du passé qui sont pourtant considérés comme de grands hommes. Le quatrième point, c'est que ces personnes, à travers leur faiblesse, malgré leur faiblesse, ont cru et ont agi, et ils ont contribué à l'œuvre de Dieu. Malgré leur faiblesse, ils ont accompli des choses extraordinaires. Ils ont accompli le plan de Dieu et des choses dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Abraham a fondé le peuple qui a apporté au monde le Sauveur. Abraham a été celui dont on parle encore comme étant l'homme de foi. David a écrit les psaumes qui nous font tant de bien quand nous les lisons. Salomon a bâti le temple. Les prophètes ont écrit et ils ont annoncé la venue de Jésus sur lequel notre foi se fonde, sur tous ces écrits. Paul, toujours lui, nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La fin de ce texte est importante. Nous sommes sauvés non pas à cause de nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres à faire, en vue de quelque chose à faire. Notre salut ne doit pas nous inciter à nous croiser les bras et à attendre que Jésus-Christ veuille bien revenir. Mais notre salut doit nous inciter à pratiquer les œuvres de Dieu, ce qu'il attend de nous. Et comme les hommes de la Bible, chacun de nous, avec ses faiblesses, avec ses manquements, doit contribuer à l'édification de l'Église, du peuple de Dieu. On va réviser un peu. Vous connaissez les cinq missions de l'Église ? Adoration. Édification. Communion fraternelle. Service. Évangélisation. Voilà, témoignage. Hein? C'est bien, hein? Il faut réviser de temps en temps. Hein? À quoi sommes-nous appelés ? À cinq choses. Dans un autre ordre, évangélisation, faire connaître, témoigner, dites-le fort, encore plus fort. Édification, nous aider mutuellement à nous soutenir, à nous construire, à nous fortifier. Louange et adoration, ce que nous faisons maintenant et que nous ferons éternellement pour notre Dieu. Communion fraternelle, donner de l'amour entre nous, de façon à nous fortifier aussi. Et le service, qui est un mot très vague, mais tout ce que nous pouvons faire pour notre prochain, dans l'Église et hors de l'Église. Tout ce que Dieu peut nous appeler à faire. Nous sommes sauvés pour apporter un peu de lumière dans un monde bien sombre. Paul le dit aux Philippiens, chapitre 2. Pour apporter un peu d'amour dans un monde sans amour. L'épître de Jacques nous dit, chapitre 1, verset 27, la religion, c'est un mot qui est rare dans la Bible, le mot religion. Curieusement, on l'emploie très rarement. Mais là, il est là. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu. Tiens, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que la religion authentique et pure aux yeux de Dieu. Consiste à aller à l'église tous les dimanches matin. Ah non, pardon, c'est pas le texte. Consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le monde. Voilà ce que c'est que la religion pure et sans tache devant Dieu. Mais qu'est-ce qui nous qualifie, nous qui sommes impurs, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes faibles? Qu'est-ce qui nous qualifie pour ces œuvres, si ce n'est Jésus lui-même? Puisque nous avons été créés, disait le premier texte que nous avons lu, nous avons été créés en lui pour ses œuvres. C'est Jésus qui nous qualifie pour ce service, pour ses œuvres bonnes, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Le cinquième point, le fait que la Bible ne nous cache pas les faiblesses des uns et des autres, eh bien moi ça me donne confiance dans la Bible. Quand vous lisez l'histoire de quelqu'un et où on vous présente que les qualités, ça doit s'appeler une hagiographie, je pense. Vous dites, bon, d'accord, mais on ne me dit pas tout. Là, on a vraiment l'impression qu'on nous dit tout. Même des fois, des détails un peu cruels. Alors, si la Bible nous dit tout, eh bien, ça nous donne confiance. Ça nous donne confiance dans la vérité de ce qu'elle dit. Non, les lecteurs de la Bible ne sont pas trompés. Ils savent, pour parler un peu du Nouveau Testament, ils savent que Paul a persécuté l'Église avant d'être apôtre. Ils savent que Pierre a renié Jésus juste avant la croix. Ils savent que les parents de Jésus ont voulu faire passer leur fils pour fou. Nous pouvons donc nous fier à la Bible, puisqu'elle ne maquille pas la vie des grands hommes. Par contraste, nous pouvons la croire lorsqu'elle nous parle de la vie parfaite de Jésus. Je peux me fier à la Bible et notamment quand elle nous annonce Jésus, quand elle nous le révèle, et quand elle nous révèle aussi toute la suite, le futur glorieux qui attend les enfants de Dieu. C'est important d'avoir confiance dans les promesses de la Bible. Un sixième point qui m'a frappé, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, les grands hommes de l'Ancien Testament ont rarement pu arriver jusqu'au bout de leur œuvre. Il a souvent fallu quelqu'un qui prenne le relais pour qu'ils arrivent au bout. Exemple, Abraham, Dieu lui promet un pays, mais il ne le possédera jamais, ce pays. Il va y aller, mais il sera nomade dans ce pays. David, qui rêvait de construire le temple, Dieu lui dit non, c'est pas toi qui le construiras, c'est ton fils. Élie, avec toute la vie de victoire que Élie a eue, mais un beau jour tout s'est arrêté et c'est Élisée qui a dû continuer. Moïse, qui a traversé le désert, qui a fait, j'allais dire, le plus dur. Et c'est Josué qui va pouvoir rentrer dans le pays promis. Tous ces hommes et toutes leurs œuvres, même si elles sont glorieuses, sont marquées au coin de l'imperfection. Imperfection d'eux-mêmes, imperfection de leur destin, qui souvent semble inachevé. C'est pourquoi ces hommes peuvent nous servir d'exemple sur certains points de vue, mais pas de modèle. Seul Jésus peut être notre modèle, car il est le seul véritable juste et il est le seul qui a mené jusqu'au bout la mission que Dieu lui a donnée. J'aimerais lire avec vous ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux dont nous avons parlé tout à l'heure. Et on ne va pas le prendre au début parce que ça serait un peu long. On va le prendre à partir du verset 32. D'ailleurs, ça commence par « Le temps me manquerait si je voulais parler en détail » de Gédéon, de Barak, etc. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles, ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies, des femmes ont vu leur mort ressuscitée pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui était meilleur, c'est-à-dire la résurrection. D'autres ont enduré des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les montagnes et sur les déserts, vivant dans les casernes et les antres de la terre. Beaucoup ont souffert à cause de leur foi. Verset 39. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Ils n'ont pas obtenu le monde parfait dont ils rêvaient. Nous non plus d'ailleurs pour le moment, car Dieu a des projets à plus long terme, des projets qui englobent toute l'humanité. Ils n'ont pas pu arriver au bout de leur œuvre, ce n'est pas parce que Dieu les a désapprouvés. Et ça aussi, c'est une pensée qui pour nous peut être précieuse. Si nous n'obtenons pas ce pourquoi nous prions tout à l'heure, depuis longtemps, tout à l'heure, Fred nous parlait de ses prières pour la conversion de sa fille, pour son futur mari aussi. On pourrait lui suggérer de prier pour les petits-enfants, la conversion des petits-enfants. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Un certain nombre d'entre nous ont des prières sur le cœur, des prières qu'ils présentent à Dieu depuis longtemps et qui n'ont pas trouvé d'exaucement pour l'instant. Alors on peut se dire, mais si nous n'obtenons pas, c'est que Dieu nous désapprouve. En fait, ce passage nous montre que si nous n'obtenons pas, ce n'est pas forcément que Dieu nous désapprouve. Et que ce n'est pas une sanction de Dieu. Si nous n'obtenons pas ce que nous demandons, c'est que son plan est beaucoup plus vaste. Et que son plan englobe des générations, des générations, des générations. Si nous n'obtenons pas, ce n'est pas parce que Dieu nous désapprouve. Et puis, nous pouvons encore une fois souligner que seul Jésus a parfaitement réalisé l'œuvre du Père. C'est ce que nous dit le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, où Paul dépeint Jésus qui, venu du ciel, s'est dépouillé lui-même, abandonnant la forme divine pour venir comme un homme. Et non pas simplement comme un homme, comme le plus bas des hommes, comme un esclave. Et non pas simplement comme un esclave, mais comme quelqu'un qui meurt. Et j'allais dire, même pas simplement comme quelqu'un qui meurt, mais comme quelqu'un qui meurt sous la torture, sur la pire des morts. Et ce chapitre, ce passage conclut en disant, c'est pour cela, parce qu'il l'a fait, parce qu'il est allé jusqu'au bout, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il a vraiment réalisé. Et puis, comme vous savez toujours dans l'histoire de la Bible, il y a 7 points. Voilà le dernier. Reprenons notre lecture. Nous sommes maintenant au chapitre 12 et au verset 1. Qui nous dit ceci? C'est pourquoi nous aussi qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort de la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Ces gens de foi ne nous sont pas proposés comme des modèles de vie, mais comme des témoins de foi. N'imitons pas leur vie, imitons leur foi. Leur foi peut nous encourager. Leur souffrance, leur absence de résultats apparents, alors qu'ils étaient approuvés par Dieu, doit aussi nous encourager. Lorsque nous avons l'impression que nous n'avons pas beaucoup de résultats. Moins loin que ça, beaucoup plus près, il y a des personnes pour qui ce n'est pas tellement sur David ou sur Abraham qu'ils fixent leur modèle, mais beaucoup plus près de nous, sur Calvin, sur Henri Blocher, Et sur Marc Ray, qui a été notre pasteur si longtemps, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a prévu ce cas-là. Il nous dit, au chapitre 13, au verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs. » Et considérez la fin de leur vie et imitez leur foi. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous de vos conducteurs. On se souvient avec reconnaissance du ministère de Marc. Mais il nous dit pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit souvenez d'eux, il nous dit pas imitez-les, hein, faites comme eux. Même si j'ai rien à reprocher à Marc, hein, mais. Il nous dit « imiter leur foi ». Parce que quand on scrute bien la vie des hommes, même des grands hommes, mais proches de nous, on trouvera toujours un moment où il y a eu un faux pas. Mais imiter leur foi. Comme eux, faisons confiance à Dieu. N'imitons pas la façon de vivre, pas toujours pure. Si vous lisez la vie de Luther, par exemple, quand même des choses qui vous font dresser des cheveux sur la tête. Luther et le peuple juif, par exemple, c'était un nazi, ce type. Nous devons nous débarrasser, c'est ce que disait Hébreux 12, débarrassons-nous du fardeau, des fardeaux et du péché, et courons en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et voilà, je crois, la dernière réponse à la question. Pourquoi est-ce que la Bible nous montre les fautes, les tares, les péchés des grands hommes? C'est pour nous inciter à fixer les yeux sur Jésus. Lui, l'homme parfait, celui qui a créé la foi, celui qui l'a fait grandir en nous, celui qui est allé jusqu'au bout de la mission fixée par Dieu. C'est lui que nous devons imiter. Pour les autres, inspirons-nous de leur foi, ça suffira.